Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro d'Analyse F1, un numéro un peu spécial comme vous le voyez sûrement en lisant le titre du podcast, puisque cette chronique s'appelle Rétro F1, la chronique de Mister Yo-Yo. Et donc Mister Yo-Yo est avec moi. Bonjour Mister Yo-Yo.
Bonjour Néo et bonjour à tous.
Tu peux m'appeler Julien si tu le vois
Ah
bien
bah écoute, il n'y
comme
a pas de souci, si tu m'appelles Johan, il n'y a pas de problème, hein.
Ok, pas de souci. Rétro F1, qu'est-ce que ça va être? Pourquoi Mister Yo-Yo est-il là? Eh bien, on va le savoir. Tout d'abord, pourquoi Mister Yo-Yo? Tout d'abord, là, je connais Mister Yo-Yo, je te connais depuis quelques années quand on officiait sur une plateforme qui s'appelait eLive et ensuite Showprime, qui sont maintenant décédés. Et donc, déjà à cette époque-là, j'avais découvert tes casts et tes diverses émissions F1, tes commentaires également de Grand Prix Rétro. Est-ce que tu vois un peu en parler?
Oh bah, c'était entre guillemets ma deuxième activité principale sur eLive après le catch, hein, pour ceux qui s'en souviennent. J'avais fait un petit peu de F1 parce que c'est une de mes passions depuis, bah, depuis une bonne quinzaine d'années facile. Et puis bah, voilà, j'avais envie d'en parler. Il se trouve que avec un pote que j'avais rencontré justement sur eLive qui s'appelle Satsoul. Qui s'avère aussi être un grand fan de F1, donc du coup j'ai eu cette idée de faire un grand prix, notamment c'était le Grand Prix de Monaco en 84. Et donc à partir de là, donc bah c'était le bah, malheureusement le seul Grand Prix que j'ai eu à commenter sur eLive, parce qu'après j'ai continué mon parcours sur le catch et puis un peu le football rétro aussi. Et puis sur Showprime, j'ai eu cette idée de parler des circuits. Où j'avais fait plusieurs casts sur l'histoire du Grand Prix, enfin du circuit de Silverstone, de Monaco, de Monza, etc., etc. Et puis donc voilà, c'était des trucs bah, où je racontais un peu l'histoire, où je mettais les différents circuits, enfin à différentes époques, avec les petites modifications qu'il y a pu avoir au fil du temps, les vainqueurs, etc., etc. Et puis à la fin, je terminais par une vidéo. D'un tour en caméra embarquée, ce qui était assez sympa. Et donc voilà. Et donc effectivement, c'est vrai que c'est là que avec Neobos qui faisait ses castes dans son coin. Et puis donc voilà, j'avais remarqué ça. Et puis c'est là qu'on s'est plus ou moins connecté entre guillemets. Et c'est vrai on avait avant la fin de Showprime, on avait ce projet de faire des petits trucs ensemble. Et puis bon bah la mort du site a fait que malheureusement ça ne s'est pas produit, et puis il a fallu attendre cette année pour que Julien me propose gentiment de savoir si ça m'intéresserait de faire bah voilà
Ouais, des podcasts.
voilà des podcasts, c'est le mot que je cherchais. Et donc évidemment j'ai accepté parce que c'était quelque chose bah oui que ça, qui m'intéressait, et puis voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis ici aux côtés de Julien.
Ah,
Voilà.
bah, ça me fait très plaisir également. Et donc, après tout ça, j'ai une question. Est-ce que, d'où nous vient en fait cette passion pour le rétro, les vieux matchs, les vieilles courses, etc., l'histoire des circuits, est-ce qu'il y a une raison particulière à cela?
Bah, c'est pas totalement de la nostalgie parce que j'ai pas vraiment vécu ces périodes-là. Je suis né en 1987, donc voilà, j'ai 27 ans, bientôt 28.
D'accord.
Et donc, mais c'est toujours un goût pour bah, pour l'histoire, pour savoir où par où le sport est passé pour en arriver là où il en est aujourd'hui. C'est vrai que c'est très intéressant de remonter le fil, de voir les évolutions, surtout en F1 où les évolutions quand en 60, on est en 5, le premier championnat du monde en 50, mais les courses automobiles depuis le début du siècle, ça existe. Et
Ouais,
c'est
c'est
vrai
vrai.
que de voir, enfin début du 20e siècle, je précise,
Oui.
et même fin du 19e pour les premières courses en mode expérimental. Et c'est vrai que de voir toutes les évolutions technologiques, que ce soit au niveau des pneus, au niveau du moteur, au niveau du châssis, au niveau des pilotes eux-mêmes, c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et puis voilà, et puis c'est une manière aussi de rendre hommage aussi à des pilotes ou des voitures ou des circuits, ouais, qui ont aussi pas mal évolué entre les circuits sur des qui étaient à la base, comme par exemple Silverstone, ou même pas mal de circuits anglais qui étaient qui étaient construits sur des sur des anciens aéroports, enfin aéroports, enfin des trucs, voilà, pas des aéroports, mais tu sais, des trucs dans le même genre, des trucs d'aviation, voilà.
Ouais.
Et puis au fil du temps, bah, c'est devenu, on va dire, ça s'est un peu plus professionnalisé avec des vrais circuits sur des lieux parfois un peu improbables, comme bah, encore aujourd'hui, hein, comme par exemple le Grand
en Corée
Prix
du Sud.
En Corée du Sud et en Inde, où c'est vraiment pour le coup des circuits qui ont été construits un peu au milieu de nulle part.
C'est vrai, ouais.
Et donc c'est assez intéressant. Et même, je me souviens du Grand Prix du Brésil quand c'était à Jacarepaguá, c'était l'autre circuit après, avec Interlagos, où c'était sur des marécages. Enfin, c'était sur des marécages asséchés, donc du coup on a construit là-dessus.
Mais oui, ça avait créé pas mal de soucis au niveau des températures, il me
Oui,
semble, pour la fiabilité.
c'était une cuvette absolument horrible où les températures étaient effectivement. Température et humidité qui étaient assez hallucinants. Et donc, ouais, c'est vrai que niveau fiabilité, surtout quand c'était à la période du turbo, où déjà la fiabilité du turbo à la base c'était pas garanti. Mais alors, si on rajoutait ça,
Ouais.
c'était assez étonnant.
D'accord, très bien. Et donc, bah, moi je suis totalement d'accord avec tout ce que tu as dit, dans le sens où pour moi aussi, l'AF1 se définit par son histoire et crée de l'histoire d'année en année, et c'est ça qui rend ce sport vraiment intéressant, et même le sport en général vraiment intéressant, je trouve. Et donc, ça nous amène à ta rubrique Rétro F1. Donc, qu'est-ce que tu vas nous présenter au cours de ces différents podcasts de manière générale et, ensuite, qu'est-ce que tu vas nous présenter dans ce podcast précis?
Donc le rétro F1 en gros, ouais, c'est dans l'état, dans l'esprit de ce qu'on a développé jusqu'à présent, c'est-à-dire bah, de parler de l'histoire de la F1 et de ses pilotes, de ses monoplaces, parce qu'il y a aussi des monoplaces qui sont restées célèbres pour des innovations technologiques, ou plutôt des innovations au niveau du châssis ou des trucs comme ça. Et puis aussi des circuits, parce que des circuits, plutôt même des grands prix en particulier qui sont restés dans les mémoires, soit parce qu'il y a eu de la pluie, ou soit parce qu'il s'est passé beaucoup beaucoup de choses. Et donc voilà, c'est aussi une manière de rappeler un petit peu l'histoire de ce sport qui, même encore en 2014, s'écrit. Et s'écrit de manière assez toujours de manière intéressante, parce que chaque année a son histoire. Et même si le résultat parfois peut paraître, comment dire, rébarbatif, parce que on a vu par exemple en 2014 où c'était toujours à peu près Mercedes qui dominait, mais ça tombe pas de nulle part dans ces cas-là.
Ouais, et ça crée un duel, ça crée quelque chose qui va recréer quelque chose en 2015 dans le cas où Mercedes redomine. C'est intéressant, moi, je trouve.
Oui, c'est toujours intéressant. Et puis il y a des perspectives comme en 2015 avec l'arrivée de du mo le retour de Honda, dont on connaît le succès dans les années 80. Est-ce que ils vont réitérer ces choses-là en 2015? En plus avec avec quand même deux pilotes qui sont quand même parmi les plus talentueux.
C'est vrai.
C'est aussi très intéressant. Il y a des perspectives vraiment très intéressantes. En plus, Lotus apparemment a décidé de se redonner les moyens de faire quelque chose de correct, ce qu'ils n'avaient pas réussi à faire, enfin, ce qu'ils n'ont pas pu avoir l'an dernier. Enfin, voilà, vraiment des choses, même encore vraiment très intéressantes pour la suite. Et on aura toute l'année pour développer ça, bien entendu, et ce sera avec plaisir.
Ouais, ça va être intéressant. Et donc, dans ce Rétro F1, aujourd'hui, il me semble que tu voulais parler d'un pilote qui est récemment décédé, dont j'avais parlé dans un précédent podcast, quand j'avais poussé mon petit coup de gueule contre un hommage présidentiel. Et je parle du pilote Jean-Pierre Beltoise, qui donc est décédé en début d'année, en janvier. Et donc oui, avant que tu ne développes cette partie, oui, je souhaite rappeler que cette chronique, donc Rétro F1, c'est ta chronique, Mister Yoyo, et donc tu as toute liberté pour faire ce que tu veux pour la préparer, comme tu veux. Et là, je suis là juste pour animer, encadrer un peu, mettre des pauses musicales, te relancer pour poser des questions. Donc ne t'inquiète pas, c'est ta liberté, c'est ta chronique.
Merci. Donc Jean-Pierre Beltoise, effectivement, il nous a quittés, hélas, en début d'année. Et donc c'était un pilote qui a, mine de rien, marqué l'histoire du sport automobile. Il faut savoir que, comme pas mal de pilotes, il a commencé en moto. Et comme Peter Hansel l'a fait, et un autre champion du monde qui a fait la même chose dans les années 60. Donc voilà, il a commencé en moto, il est arrivé en F1, il a participé à pas mal de 24 heures du Mans aussi. Et en F1, il a une carrière qui compte quand même 89 Grands Prix et 8 podiums, ce qui est quand même un total quand même assez respectable.
Oui, surtout pour l'époque.
Surtout pour l'époque, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de Grands Prix qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui on est à peu près à 20 Grands Prix. Et à l'époque il fallait, c'était 12-13 maximum, surtout dans les années 60-70. Et puis parfois des circuits quand même qui étaient réputés très difficiles, comme le Nürburgring des années 60.
En effet.
Il faisait 22 km de long, je peux vous dire que... En fait, si vous voulez savoir ce que c'est, il y a, je crois, dans un Gran Turismo, il y a cette version du circuit. Et voilà, vous pourrez comprendre ce que c'est que ce circuit.
Oui, dans le 4, j'en suis sûr, puisque je le possède. Après, je sais pas s'ils l'ont remis dans le 5, mais ouais, c'était considéré comme le cimetière, hein, ce circuit, très clairement.
C'était un circuit à voilà, 22 km dans la forêt de Norfield, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle en allemand.
Le Nordschleife, il me semble.
Nordschleife, merci, c'est ça. Et donc c'était un circuit, c'était une catastrophe. Oui, parce qu'au bout d'un moment, la sécurité était clairement le problème. Et puis en plus, avec les performances des voitures qui continuait d'augmenter par la suite, c'était une plaie ce circuit. Et au bout d'un moment, il a fini par avoir un accident de Niki Lauda. Je crois que ça a fini de convaincre les organisateurs de dire bon ben on va peut-être arrêter les frais pour là parce que quand même.
Oui.
Donc c'était le truc. Et donc, pour en revenir donc évidemment à Jean-Pierre Beltoise. Ce pilote a quand même eu la majorité de sa carrière avec une blessure au bras qui était assez handicapante. Il faut savoir que en Formule 2, qui était à l'époque très importante dans le championnat du monde de Formule 1, parce que c'était souvent des courses hors championnat, et il y avait Donc, de la F2. Et aux 12 heures de Reims en 1964, il y a eu un gros accident qui lui a fracassé le bras. Ce qui avait pour effet que, dans un premier temps, il avait le bras qui ne pouvait plus bouger au-delà d'un certain degré. Son bras était immobilisé parce que au niveau du coude, ça s'était cassé. Enfin, voilà, c'était en plusieurs endroits et c'était vraiment une blessure assez sérieuse, surtout en F1, quoi. Et grâce à un travail au niveau de pas la kinésie mais la en rééducation, eh bien,
d'accord,
il a pu au fil du temps augmenter l'angle de son bras, de la mobilité de son bras, ce qui fait qu'il continue à piloter malgré tout et arrivait quand même à faire 8 podiums en F1.
Ah oui.
Sur des circuits comme les Zandvoort, Montjuïc, le circuit de Clermont-Ferrand, qui était aussi une saloperie dans le sens où il était grand.
À Charade.
Aussi, ouais.
Je le vois de mon appart, hein, Charade. Enfin, je vois le circuit, mais je vois Charade, oui.
Ah oui, le circuit de Charade, ouais, c'était...
Dédicace,
Ah oui, non, mais il n'y a pas de... Clermont-Ferrand, c'est Michelin, et puis... non, Michelin, oui, c'est Michelin.
Oui, c'est ça.
C'est Michelin, donc voilà, c'est... Clermont-Ferrand représente, j'ai envie de dire.
Mais c'est quand même fou que Beltoise soit arrivé à d'aussi bons résultats, et surtout à poursuivre sa carrière avec un si gros accident, parce que les progrès de la médecine n'étaient pas ceux de maintenant au niveau de la rééducation,
surtout les
monoplaces, elles étaient, je pense, relativement compliquées à manœuvrer au niveau du volant. Et quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, Robert Kubica Il ne peut plus courir en Formule 1, parce que ça reste quand même compliqué, mais même avec les progrès de la médecine, ce n'est pas possible. Alors que Jean-Pierre Beltoise ait pu y arriver, à mon avis, il devait quand même avoir mal dans le cockpit, quoi. C'était vraiment de la passion.
Je pense, oui, je pense, mais c'est vrai que cette génération des années 60-70 était extrêmement passionnée. Enfin, ça ne veut pas dire que, attention, je ne dis pas que aujourd'hui des Sébastien Vettel, des Robert Kubica ou n'importe quel autre pilote ne soit pas passionné par courir en F1.
Évidemment.
Ce que je veux dire, c'est que dans les années 60-70, les voitures n'avaient absolument aucune aide électronique. Et elle se pilotait de manière, évidemment, il n'y avait pas de direction assistée non plus, hein, c'était vraiment, et en plus ça glissait parce que les pneus étaient dans une autre carcasse, c'est la carcasse radiale à une époque, et ce qui faisait que ça pouvait glisser, et donc fallait contrebraquer souvent. Donc c'est
D'accord.
vrai qu'au niveau du volant, qui était un vrai volant pour le coup, c'était un volant rond, le volant high-tech. C'était ouais la limite, bah quand tu montes dans une Ferrari, t'as le volant qui est rond avec le logo, bah c'était en gros c'était à peu près le même type de volant, peut-être en plus petit, il y en a. Mais grosso modo volant de l'époque. Et en plus, dans les années 69-70, il y a une innovation qui est fondamentale, c'est l'arrivée des ailerons. En plus.
D'accord.
Qui apporte évidemment l'aérodynamisme qu'on connaît, l'effet de sol et tout ça, qui commençait à trotter dans l'idée, même si l'effet de sol ce sera que fin 70, début 80, mais toutes les évolutions amènent à cela, toujours dans cette recherche de performance. Et effectivement, oui, c'est vrai que c'était très difficile, je pense qu'il a dû souffrir énormément des conditions. Et bizarrement, là où il a le moins souffert dans ces conditions, c'est en 1972 au Grand Prix de Monaco, pour une raison très simple, c'est qu'il pleuvait à fond ce jour-là. Et donc Jean-Pierre Beltoise, qui à l'époque était sur BRM, parce qu'il a connu Matra, qui était l'écurie française de l'époque, qui donc ses premiers Grands Prix c'était ça. Et après, sur les dernières années, il était chez BRM, qui était à l'époque une écurie de pointe en F1. Et ce jour-là, à Monaco, il pleuvait vraiment très fort. On a vu ce que ça donnait Monaco quand il pleuvait. Mine de rien, ces conditions-là soulageaient son bras. Je ne sais pas exactement comment c'est possible, mais c'était. Voilà, ça le convenait mieux en termes de peut-être de tenue de route. Je ne sais pas comment ça se fait, mais voilà, c'est ces conditions-là le soulageaient peut-être un peu plus.
D'accord.
C'est
Peut-être
alors que.
la lenteur aussi, peut-être que comme les conditions sont drastiques, les monoplaces vont plus lentement, peut-être que ça joue sur ça également, la vitesse.
C'est pas impossible, effectivement. À Monaco, là j'ai l'affiche du Grand Prix de Monaco 72 sous les yeux. On va voir tout de suite les temps autour. Je pense que ça serait intéressant de le voir.
Oui, c'est vrai.
Ça me semble pas mal. Alors, le meilleur tour en course, par exemple. Alors, sous modo, à l'époque, je pense qu'il fallait une minute 30, une minute. Bah oui, le retour en course, c'est Jean-Pierre Beltoise qui le fera en 1 minute 40 sous la pluie. Finalement,
D'accord.
peut-être que ça joue à 113 km/h de moyenne, sachant que déjà le Grand Prix de Monaco est un des circuits les plus lents de l'année. Donc peut-être que ça a finalement joué aussi au fait qu'il ait de très bonnes sensations. Et sur ce Grand Prix, il y avait quand même. Et sur ce Grand Prix, là, ça a été son Grand Prix. Le Grand Prix de sa vie, quoi. C'est Monaco sous la pluie, les conditions dantesques, et donc dès le voilà, la pluie s'est mise à tomber dès le début. Donc voilà, ouais, c'est genre sur toute la course, hein, que c'est le truc. Et je
Ah oui.
crois que ouais, c'est ça, dès le début. Est-ce qu'il avait la pole? C'est la question que je me. Est-ce qu'il avait la pole au niveau des. Parce que ce serait intéressant de voir un point de comparaison. Pas de qualification. Non, c'est ça. En qualification, Beltoise fait quatrième. Il a fait le quatrième temps derrière Capaldi, Jackie X et Claire Gazzoni, qui sont en gros des pilotes qui sont très très forts. Fittipaldi, en 72, je crois, sera champion du monde avec sa Lotus. Et bah, Jackie X et Claire Gazzoni sont des habitués des podiums et avec leur Ferrari. Et ils avaient fait le tour en 1:21. Donc quand même une différence de 20 secondes entre conditions sèches et conditions pluie.
Ah oui, en effet. Oui.
C'est quand même assez, assez conséquent. Et Beltoise prend la tête de la course assez rapidement, dès le début. Il fait un meilleur départ que les autres et il va, grosso modo, garder la tête tout au long de ce Grand Prix. Je crois qu'il n'a pas vraiment été dépassé. Ouais, il gagne en seconde. Ouais, il prend un... Premier retard, c'est rigolo, au 8ème tour, il prend un tour à Niki Lauda en 72, rappelons-le, c'est le jeune Niki Lauda qui... Pardon, peut-être dans le micro, c'est toujours marrant quand tu relis les trucs. Ah oui, tiens, il y avait déjà des pilotes à cette époque-là.
D'accord.
Ouais, grosso modo, il avait pris la tête, il a pris de l'avance assez rapidement, et il a su garder la tête tout au long du Grand Prix. Et donc, le... classement final de cette victoire qui reste donc ce qui était à l'époque une rareté pour les pilotes français parce que grosso modo avant lui il y avait eu Maurice Trintignant en 55 et 58 à Monaco et François Sever à Watkins Glen en 71 et donc c'était quand même très rare qu'un français mette son nom comme ça en haut de l'affiche j'allais dire mais oui en haut du podium. Et il met quand même 38 secondes à Jackie X. C'est dire si sur ce Grand Prix, il avait quand même bien géré, Jean-Pierre Beltoise.
Ah oui, c'était vraiment son Grand Prix, en effet. Ouais.
Et donc par la suite, il aura un autre podium en 74. Et puis après, sa carrière en F1 s'arrêtera là. Et il continuera évidemment à sévir, on va dire, dans d'autres disciplines, notamment aux 24 heures du Mans où... Malheureusement, il n'a pas réussi à gagner la course, mais il aura réussi quand même à être quatrième, ce qui est tout de même assez honorable hein, quand on sait la difficulté que représente cette course.
Et oui, en effet.
Donc, c'est quand même, il y a quand même des résultats assez, assez honorables. Et donc, voilà, Jean-Pierre Beltoise, qui au final restera un pilote qui en 89 Grand Prix, 8 podiums, voilà, c'est quand même c'est quand même un
grand pilote français.
Voilà, un grand pilote français, c'est ça. C'est ça, un grand pilote français. À l'époque, ils n'étaient pas nombreux. On est loin de la période où on n'est pas encore dans la période fast où on arrive jusqu'à 7 pilotes français en F1. Avec notamment Pironi, Tambay, Arnoux, Jabouille, Prost et compagnie. Et c'était quand même... pas si souvent, dans les pilotes de pointe à l'époque français, il y avait aussi François Sever, qui était probablement destiné à être champion du monde. Malheureusement, on sait que en 73, à Watkins Glen, le destin l'a frappé.
Oui,
et,
malheureusement.
Malheureusement, ce qui peut-être... d'ailleurs, c'est ce que disait souvent Jackie Stewart, qui était le coéquipier, l'ami... de François Sever, qui disait que on a perdu le, enfin en parlant des Français, il disait le premier champion du monde français, ça aurait été lui quoi. Pour lui, c'était clair, net et précis, et donc voilà, c'était et c'est vrai que quand un pilote du calibre de Jackie Stewart raconte ça inlassablement, ça veut dire que ça situe déjà le niveau qu'avait François Sever quoi.
En effet. Ah, Mister Yo-Yo, je te propose, avant de poursuivre ta chronique, c'est de faire une petite pause musicale.
Ok.
Donc, on va s'écouter une chanson, ou une musique plutôt de Michele Evangelisti, de Night Driver. Et on se retrouve juste après. Et nous sommes de retour dans Analyse F1, et plus précisément Rétro F1, pour ce podcast spécial avec Mister Yo-Yo.
Et re-bonjour à tous, et bonjour Julien.
Re-bonjour.
Et re.
Eh bien, je te laisse poursuivre sur Jean-Pierre Bétoise. Donc, on en était où on en était, je crois, à la fin de sa carrière F1, tu l'avais
ouais,
évoqué.
Ouais, c'est ça, en 1974. Il termine en 1974, c'est sa dernière année avec BRM, et il finit sur un podium. Sa dernière année, il y a un podium en course en Afrique du Sud, et puis après, voilà, à la fin de la saison, il quitte la Formule 1, mais il ne quitte pas non plus le milieu automobile, où il va faire une petite carrière jusque dans les années 80 en voiture de tourisme. Avec tout d'abord chez Matra Simca, et puis plus tard chez Peugeot, où il remportera notamment 4 courses au début de sa carrière avec Matra Simca, et puis après, bon, voilà, chez Peugeot, il y a eu moins de succès, et puis voilà, il arrête de piloter au milieu des années 80, et puis voilà, il. Et puis voilà.
D'accord. Et donc il avait quel âge quand il a arrêté de piloter environ?
Alors attends, il est né en 37, grosso modo dans les années 80 il s'arrête, donc en gros il avait 40, il avait la quarantaine passée, hein.
D'accord, ah oui quand même, d'accord. Donc
la quarantaine passée.
finalement un parcours plutôt classique, c'est-à-dire un pilote de F1 qui s'arrête dans la trentaine, enfin en milieu fin de trentaine, et puis ensuite qui peut faire quelques courses ici et là dans d'autres catégories. C'est un peu comme ça que je le vois.
Oui, et puis démarrer en moto, ce qui est quand même
oui,
aussi...
démarrer en moto, j'avais oublié, oui, en effet.
Ouais, donc du coup, certes, beaucoup de pilotes ont fait ça. J'ai pris l'exemple de Stéphane Peter Hansen, mais c'est exactement ça, hein. Il a démarré en moto, il a gagné plein de fois le Paris-Dakar avec... en moto avant de passer dans la catégorie voiture avec le même succès qu'on lui connaît. Donc c'est un parcours, oui, quand même, qui est assez classique, même si tous n'ont pas fait cette filiale là, mais ça peut arriver.
Dans son succès, c'est pas classique, quoi. Gagner le Paris-Dakar plusieurs fois, gagner des cours, enfin avoir une carrière, on va dire, relativement prolifique en Formule 1 avec 8
podiums. Je parlais de Peter Hansel pour
Peter Hansel pour le Dakar, d'accord.
Ouais, parce que... excuse-moi, j'aurais dû préciser.
D'accord, très bien. Et donc, Jean-Pierre Beltoise en moto, il avait connu un certain succès ou pas
Il a quand même gagné à plusieurs reprises le championnat de France, ce qui voilà,
c'est honorable, oui.
C'est honorable. Voilà, c'est tout à fait honorable. Il a gagné plusieurs titres de champion de France, et puis avant de se lancer en 1963 en course automobile.
D'accord, très bien. Et j'avais entendu parler également que Jean-Pierre Beltoise, après sa carrière automobile, il a légué aussi un héritage par rapport à la conduite de tous les jours via un enseignement sur les circuits où il sensibilisait les gens à une conduite responsabilisée. Est-ce que tu en sais plus à propos de cet élément, parce que je l'ai lu juste comme ça quand il est décédé. J'ai appris tout ça un peu vaguement, mais j'ai pas eu de détails à ce niveau-là, mais ça semblait être très honorable ce qu'il faisait pour à la fois promouvoir le sport automobile et aussi promouvoir en même temps la conduite, une conduite responsable, alors que souvent certains essayent d'opposer les deux.
Je vais être honnête, je ne me souvenais plus de cette histoire, mais effectivement, maintenant que tu le dis, ça me rappelle qu'effectivement il avait fait cette histoire, et c'est vrai que c'était très honorable de sa part, parce que en fait j'ai pas grand chose d'autre à ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est effectivement vrai, et voilà, c'est vrai qu'il y a très peu de pilotes qui ont finalement fait après leur carrière, j'ai l'impression. Il y en a peut-être d'autres, hein, évidemment, mais Ouais, c'est vrai que ça doit être un des premiers, en tout cas, à avoir eu cet angle-là par la suite. Ouais, pour sensibiliser les pilotes à la conduite. Ouais, c'est non, mais c'est vraiment tout à son honneur d'avoir fait cette d'avoir fait cela. Oui.
D'accord. Et sinon, le nom Beltoise, parce que également, il l'a transmis avec sa, comment dire, sa génération descendante. Ça se dit comme ça, je ne sais pas si. Je sais pas si ça se
Je vois
dit. Mais
c'est avec ses avec sa c'est comment dire
ses
sa
enfants.
génération, oui, ses enfants, on peut le dire ça, avec sa lignée, peut-être, c'est
Sa
comme ça.
lignée, voilà. C'est vrai que c'est mieux. Dire comme ça.
En course automobile, je vais aller vérifier, donc attention si ça risque de
Pas de soucis.
de
Parce que
petites
c'était
secondes.
Anthony, je crois, Beltoise, qui était plus connu de
Ah
notre génération, il me
oui,
semble.
effectivement, oui, Anthony Beltoise, c'est un nom qui, ouais, qui est assez parlant. Alors, donc déjà, il y a d'un circuit qui porte son nom, le circuit Beltoise, avec donc les stages de pilotage, donc du circuit Beltoise. Donc, c'est, à mon avis, ça doit être dans cet état d'esprit-là.
D'accord.
Et qu'est-ce qu'ils en disent encore? Qu'est-ce qu'ils en disent encore? Il a disputé donc le 24 tour du monde, ça on sait. Alors. Ah ouais, il était président d'honneur du DCA, l'Association de défense des citoyens automobilistes, ça faut le savoir. Et donc, il a souhaité un circuit de le circuit de Haute-Saintonge pour l'éducation de tous. Tiens, justement, c'est par rapport à ce que tu viens de dire là. Et ça, c'est en collaboration avec le Conseil général de Charente-Maritime. Et effectivement, donc il a pour et donc effectivement l'éducation de tous à la bonne conduite citoyenne et pour le pour vivre les loisirs mécaniques, donc avec une approche moderne en phase avec les objectifs du développement durable. Donc vraiment, c'était
D'accord.
un truc non seulement avec le développement durable, mais aussi une démarche éducative, parce on en est là, quoi. C'est vraiment une démarche éducative. Et vraiment, non, voilà, on a vraiment un truc très 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 intéressant là, ce qu'il propose. Et donc, pour en revenir à des Beltoises, effectivement, il y a dans son palmarès quand même, il a pas mal de choses intéressantes, comme champion de France de super tourisme, champion de France de Formule 3, Formule 2. Donc quand même une bonne montée en puissance, ceci dit. Ça on ne l'avait pas dit, et voilà, ça s'est fait. Alors, est-ce qu'ils en parlent de la lignée Beltoise? Enfin, c'est vrai qu'Anthony Beltoise, par exemple, voilà. Alors, est-ce qu'ils en parlent? Il a participé, il a une carrière assez honorable aussi, hein, franchement. La carrière d'Anthony Beltoise, elle est assez intéressante dans le style où il a été lui aussi champion de France. Enfin, est-ce qu'il a été champion de France? Non, apparemment. Il a fait de la Porsche Carrera Cup en France. C'est quoi le FFSAGT? Où il a été champion de France à deux reprises. Non,
D'accord.
il a une carrière assez honorable où il a quand même, ouais, il a quand même fait deux, il a quand même été champion de la Porsche Carrera Cup France en 2008. Anthony Beltoise, ce qui est quand même une bonne chose. Voilà, enfin, c'est quand tu gagnes dans une compétition automobile, quelle qu'elle soit, c'est toujours honorable. Et il y a également Julien Beltoise, qui est également pilote,
D'accord. Ah, je connaissais pas Julien Beltoise.
bon, il est un petit peu plus jeune. Il a 40 piges quand même, 74 il est né. Et lui aussi, il a quand même dans sa carrière été champion de. Enfin, il a gagné la Coupe de France Peugeot 206 RCC en 2007.
D'accord.
Ce qui est, voilà, également assez honorable. Donc c'est quand même. Oui, donc quand la lignée Beltoise, sachant que. Super. Sachant que les frères Beltoise apparaissent de manière médiatique assez régulièrement dans Automoto pour
Ah,
tester
c'est
de
pour
nouvelles
ça.
voitures
C'est pour ça
aussi.
que j'avais entendu son nom très souvent à
Que
Anthony
ce soit
Beltoise, c'est
Anthony et
possible.
Julien Beltoise,
D'accord.
effectivement, bah, c'est un peu comme Margot Laffitte qui est également qui avait fait V6 sur NT1 et puis aujourd'hui, qui est au Canal F1 Club là, enfin, Canal Formule 1 quoi, enfin le
Ouais, je vois ce que tu veux
Formula
dire.
One, c'est ça,
Ouais.
on revenait pas. Donc ouais, les fils de pilotes qui sont parfois eux-mêmes pilotes sont eux-mêmes, bah, on va dire médiatiquement reconnus et bah et les frères Beltoise, enfin les fils Beltoise, Julien et Anthony sont l'exemple le plus parfait. D'ailleurs, petite anecdote sur le frangin de Jean-Pierre Beltoise. Il est apparu dans un reportage du Petit Rapporteur aux côtés de Stéphane Collaro. En gros, je vous la fais rapide. En gros, c'était un reportage sur l'arrivée d'un camp de nudistes dans une localité. Et donc, bah, Stéphane Collaro était allé interviewer des personnes du village. Et à un moment, au niveau de la... de je sais plus, dans l'un des commerces, à un moment donné, on voit un type arriver, donc évidemment un naturiste, donc tout nu, en train de vouloir acheter des trucs, et donc cette personne, c'est le frangin de Jean-Pierre Beltoise, donc c'est une petite anecdote assez rigolote.
D'accord.
Et quand tu voyais la tronche de la dame qui le voyait arriver, c'est juste, voilà, c'est juste énorme, et donc voilà, donc c'était donc Stéphane Collaro, qui avant d'être qui était un journaliste sportif à la base, donc a bien connu les frangins beltoises, et donc c'était voilà, c'était une petite anecdote assez rigolote.
En effet, oui, c'est assez marrant.
Donc, voilà. Et donc malheureusement, donc Jean-Pierre Beltoise nous a quittés donc le 6 janvier dernier suite à un accident vasculaire cérébral au Sénégal. Pour mettre un point final à quand même une très belle carrière de pilote automobile pour en plus française, donc voilà. C'était un petit hommage que j'avais envie de lui rendre, parler de lui un petit peu, sur sa carrière, revenir sur c'est les belles choses qu'il a faites, que ce soit en F1 ou même dans d'autres compétitions, parce que c'est vrai qu'on met le focus sur la F1 parce que c'est un petit peu on va dire, c'est pas un petit peu, c'est la discipline de référence, mais des compétitions automobiles, il y en a un paquet, et on va dire, c'est pas parce que c'est moins médiatisé que tu n'as pas de mérite à gagner des courses ou même des championnats dans ces catégories-là.
Ah oui, totalement, oui.
Et donc, quelque part, c'est aussi un petit peu mettre, bah, rendre hommage aussi, surtout dans cette génération-là, qui était beaucoup plus, on va dire, complète que la génération d'aujourd'hui, où généralement, bon, ils font de la F1, puis bon, certains passent en rallye, et puis parfois ils vont dans les American Le Mans Series, enfin en endurance.
Oui.
Mais j'ai l'impression que c'est moins systématique que cette génération des années 60-70, où là, pour le coup, bah, déjà, il y avait la Formule 2, qui... Bah, faisait le taf hormis les grands prix officiels de F1. Il y avait évidemment des courses non officielles entre deux grands prix parfois. Il y avait aussi bah, parfois certains qui participaient au Mans. Il y avait aussi ceux qui participaient aux 500 miles d'Indianapolis. Et puis parfois des courses locales. Donc c'est aussi, finalement, on s'aperçoit que les carrières de cette période-là étaient quand même très riches dans leur globalité, et aussi dans la palette des styles de pilotage. Parce qu'évidemment, une Formule 1 ne se conduit pas pareil qu'une voiture de tourisme ou une voiture de rallye ou autre. Ou comme... ouais, voilà, c'est ça. C'est assez intéressant de voir que soit Jean-Pierre Beltoise, et on va voir d'autres pilotes qui ont connu des carrières assez vastes, comme on va forcément parler de Jackie X à un moment donné, qui a eu une belle carrière en Formule 1 et qui a été pendant un moment le recordman de victoire des 24 heures du Mans. Donc c'est quand même des styles de pilotage qui sont très différents, et parfois être bon dans plusieurs domaines, bah, c'est quand même un gage de qualité.
Ah, c'est valorisant, oui, c'est sûr.
C'est valorisant, et clairement, même si C'est pas la carrière la plus emblématique. Mine de rien, Jean-Pierre Beltoise a marqué l'histoire de la Formule 1 et même de la course automobile en général. Et il était important de lui rendre hommage aujourd'hui.
Et tu lui as rendu, je trouve, un très très bel hommage. Et je t'en remercie. C'était vraiment vraiment une expérience sympathique de faire ce podcast à tes côtés. Et tu me diras quand tu voudras réitérer l'expérience. On fera comme pour aujourd'hui. Et puis nous ferons un deuxième rétro et fin à la chronique de Mister Yo-Yo.
Bah écoute, ce sera avec plaisir, hein. Et puis on se contactera évidemment quand j'aurai des moments libres. Et puis voilà.
Ah ben
On
nous.
fera ça avec beaucoup de plaisir.
D'accord, très bien. Eh bien, je te remercie encore. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous donne rendez-vous, eh bien, la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Si vous aussi vous avez une idée peut-être de chronique qui germe dans votre tête, n'hésitez pas à me la proposer, que ce soit sur le Skype d'Analyse F1 qui est Analyse F1 tout attaché, sur le Twitter @F1Analyse ou sur la page Facebook d'Analyse F1, n'hésitez pas à me proposer. Il faut évidemment que ce soit assez différent de ce que je fais, assez différent de Rétro F1. Et il faut que ce soit pas forcément régulier. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez me proposer une chronique hebdomadaire, ça va pas le faire. J'aurai jamais le temps de consacrer tout ce temps à ça. Mais si c'est une chronique, genre une fois toutes les 2 semaines, ou une chronique qui n'est pas forcément timée, c'est-à-dire il y aura une chronique avec 3 semaines de différence, enfin 2 chroniques avec 3 semaines de différence, 2 chroniques ensuite avec 1 mois de différence, ça me va, ça me va. C'est vraiment votre chronique avec nos temps libres respectifs pour pouvoir enregistrer. Mais n'hésitez pas si vous avez des idées à me proposer, j'étudierai ça et je vous donnerai une réponse rapidement. Je pense que ça pourrait être intéressant justement de diversifier, analyser F1 dans ce sens, comme on le fait avec Mister Yo-Yo. J'espère que ça vous a plu, un rétro F1. Nous, on a vraiment adoré le faire en tout cas.
Oui,
Et, euh...
c'est clair.
et voilà, et donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, n'oubliez pas, vivons notre passion. À bientôt.